Je passe la parole à Chris, enfin, la parole, le micro, la technique, à Christelle Di Pietro, dernière intervenante de la journée, la deuxième conservatrice territoriale de la journée, puisqu'il y avait deux conservatrices d'État et deux conservatrices territoriales, voilà, qui va intervenir sur le mémoire d'études qu'elle a soutenu brillamment sur impulser l'innovation en bibliothèque. C'est quelque chose comme ça, hein. C'est bien pour ça que vous êtes venu.
Et piloter,
voilà.
Impulser et piloter l'innovation.
Et pour ça, donc, vous avez en tout, question comprise, 45 minutes. Merci, Christelle.
Voilà, sauf que moi, Windows, je ne sais plus comment ça fonctionne.
Je suis désolé.
Donc, si je veux démarrer, pourquoi il déclenche à partir de la diapo actuelle. Oui, pourquoi il fait ça, hein? Pourquoi il me... Ah, d'accord, ok. Merci. D'accord, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc clore cette journée en vous présentant mon mémoire de fin d'études d'élève conservatrice territoriale des bibliothèques, qui s'intitule donc « Impulser ». Merci. « Impulser et piloter l'innovation en bibliothèque mode d'emploi », mémoire que j'ai donc conduit l'année dernière sous la direction de Madame Raphaëlle Gilbert. Un point rapide sur la méthode et sur la façon dont j'ai cadré ce travail. J'ai volontairement limité le champ de ma recherche au contexte français, même si j'évoque quelques expériences étrangères, en particulier pour ce qui concerne le contexte du management de l'innovation dans les services publics. En effet, celui-ci est intrinsèquement lié au statut et au fonctionnement de la fonction publique française et donc peu transférable à partir d'autres pays. Cependant, les outils et les méthodes de travail demeurent les mêmes, hein, d'une bibliothèque à l'autre. Et on retrouve donc des points de vue étrangers, entre autres celui de Roberta Schaeffer, la directrice générale de la Library of Congress, ou d'autres expérimentations, comme celle de la bibliothèque de Vanta en Finlande, qui sont tout à fait transposables. Même si je n'avais pas réduit a priori le champ de mon étude à certaines bibliothèques, à certains types de bibliothèques, il s'est imposé que les bibliothèques territoriales conduisent des réflexions beaucoup plus approfondies que les bibliothèques universitaires sur ces questions, en particulier un type de bibliothèque que sont les BDP, donc les bibliothèques départementales de prêt, pour une raison simple, alors elles sont en mode innovation sous contrainte, on va dire, notamment à cause de la réforme territoriale et de la réforme des départements, qui les oblige à repenser complètement leur fonctionnement et leur mission. Et donc, on va retrouver beaucoup de ces BDP dans le champ de l'innovation et du management de l'innovation. L'angle que j'ai choisi, c'est donc le pilotage de l'innovation. On voit depuis quelques années un certain nombre de travaux, de journées d'études, à peu près depuis 5-6 ans, des formations qui sont consacrées à l'innovation, ainsi que des ouvrages, mais qui sont surtout axés sur la mise en œuvre de services innovants dans les bibliothèques. Je pense notamment à l'ouvrage de Marie-Christine Giacchini dans la collection Boîte à outils de l'ENSIB, qui portait sur les services innovants, ou encore le mémoire de Raphaëlle Gilbert, donc ma directrice de mémoire, qui avait travaillé aussi sur le pilotage de services. L'angle que j'ai choisi, c'est celui du management de l'innovation dans les bibliothèques, pas la création de services, même si j'aborde cette question à travers quelques exemples. Je suis partie d'une approche très globale qui prend en compte la totalité du contexte culturel, politique, historique, sociologique, économique de l'innovation, afin de comprendre quels en sont les ressorts, quels en sont les intérêts, quelles en sont les conséquences, pour aboutir, donc en troisième partie de mon mémoire, j'évoquerai tout à l'heure, à des propositions d'outils et de méthodes de travail, donc des méthodes de travail appliquées au management et des outils de pilotage. Je suis partie du principe que, du postulat même, que l'innovation, c'est une activité qui se pilote au même titre que n'importe quelle autre activité. Quand on parle d'innovation, il y a un sous-entendu derrière qui peut tout de suite penser à la question de la créativité, de l'inventivité. On voit tout de suite l'inventeur dans son coin qui va créer, inventer quelque chose. Même cette question-là de la créativité est soumise à management et à pilotage. C'est-à-dire qu'on peut aussi piloter la créativité dans nos établissements. Ça n'est pas une activité qui est complètement spontanée. C'est vraiment quelque chose qu'on peut amener et qu'on peut diriger. Le dernier point de méthode, ça a été à propos des sources que j'ai utilisées. Il y a très peu de sources qui sont consacrées à l'innovation en bibliothèque, encore moins au pilotage de l'innovation en bibliothèque. Donc, de fait, j'ai élargi mon propos très largement à la fonction publique ainsi qu'au secteur privé, notamment en ce qui concerne les outils et les études qui ont été conduites sur le management de l'innovation. Alors, j'ai eu de la chance parce que... Alors, de la chance, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une convergence qui fait que ces questions deviennent plus prégnantes maintenant? Le dernier numéro du magazine de l'IFLA, donc au moment où j'ai fait mon mémoire en novembre 2014, était consacré au management de l'innovation dans les bibliothèques nationale. Donc j'ai pu le consulter in extremis juste avant la remise, entre autres avec une superbe introduction, je vous engage vraiment à le consulter, même s'il est en anglais, il n'a pas été choisi, traduit, avec une introduction de Roberta Schaeffer, la directrice générale de la Library of Congress, qui propose un process de mise en œuvre en 7 étapes de mise en place de l'innovation dans les bibliothèques. Et j'ai eu la chance aussi, puisque l'année précédente, en 2013, s'étaient tenus les entretiens territoriaux de Strasbourg, qui portaient dans la thématique, était sur l'innovation dans les services publics. Ça m'a permis d'élargir vraiment mon horizon et de vraiment poser cette question de l'innovation sur des champs professionnels très éloignés, comme les services départementaux d'incendie ou le ministère de la Défense, qui mènent des expérimentations qui sont extrêmement intéressantes et reproductibles dans nos bibliothèques. Alors, j'ai commencé le premier travail que j'ai conduit, ça a été d'explorer tout le champ des définitions de l'innovation. Alors, je suis partie de très loin parce que c'est un travail que j'ai fait dans une perspective historique. Je suis partie d'Aristote pour arriver jusqu'à nos jours. Je vous la fais courte parce que sinon on va y passer longtemps. En gros, d'Aristote jusqu'au 19e siècle, l'innovation, c'est le mal incarné. Voilà, on ne peut pas dire mieux. L'innovation, c'est quelque chose de pervers qui pervertit les institutions, qui est considéré comme étant une vraie remise en cause des institutions, du gouvernement, de l'État, des religions, du droit, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une connotation extrêmement négative. Jusqu'à la fin du 18e, on va dire jusqu'à la Révolution l'arrivée du 19e siècle, qui va commencer à changer le point de vue sur l'innovation. Le premier vrai théoricien de l'innovation qui commence à poser les choses, à positiver, c'est Gabriel Tarde, sociologue français, à la fin du 19e, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les lois de l'imitation », qui n'est pas très connu. C'est dommage parce qu'il y a énormément de choses à en retirer, qui va vraiment poser les bases de définition de l'innovation sociale. Tarde va être oublié, va disparaître, et l'innovation va revenir à la fin des années 30, début des années 40, avec Schumpeter, et une approche strictement économique. Et en gros, c'est vraiment cette approche-là, économique, qui va primer sur l'ensemble du XXe siècle. Jusqu'à ce que l'OCDE commence à travailler sur cette question de l'innovation et publie 3 éditions du même manuel, qui s'appelle le manuel d'Oslo. Donc on a eu 92, 98, 2005. Donc la dernière version, c'est 2005, et ils sont en train de travailler sur une quatrième version. Et donc la définition, qui est vraiment la définition pivot moi, sur laquelle je me suis basée, c'est celle que vous voyez, donc la première. L'innovation, c'est la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation, d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. C'est très large, C'est très large, mais on se rend compte qu'il manque quand même dans cette définition-là l'aspect social et l'aspect service public. C'est-à-dire que cette définition, en l'état, elle a du mal quand même à s'appliquer à la notion de service public. Après 2005, il y a eu tout un mouvement qui s'est attaché à travailler sur l'innovation sociale et qui a donné lieu à des nouvelles définitions et des nouvelles approches, donc, dont celle du CSESS. Donc CSESS, c'est le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui a fourni une nouvelle définition de l'innovation qui va nous intéresser parce que c'est celle-là sur laquelle on travaille, sur laquelle les services publics travaillent et qui est récupérable, là, pour le coup, en bibliothèque, où l'innovation sociale, c'est ce qui va permettre d'élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant, et ça, c'est important parce que ça va faire partie des outils de travail privilégiés de l'innovation, la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. C'est cette approche qui va donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation centrée usager et qui utilise la co-construction et la co-conception avec ses usagers. Alors ce matin, il me semble, je ne sais plus si c'est Florian ou Katrina qui disait les bibliothèques sont passées de la conception d'usager à la conception d'habitant. On est complètement là-dedans, c'est-à-dire que là, l'usager n'est plus usager pour la bibliothèque, il va devenir co-concepteur et co-constructeur de services. On va voir un peu plus loin ce que ça implique et comment on peut travailler autour de ça. L'OCDE, du coup, a continué à travailler sur son... Oups, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc l'OCDE est en train de travailler sur une quatrième version de son manuel d'innovation qui va porter cette fois sur l'innovation publique. Ils ont fourni une première définition et là est introduite la notion de performance de service public. Donc là, on est vraiment sur un environnement qui est adapté. Et enfin, le dernier des travaux qui a été conduit sur ce sujet, c'est celui qui a été mis en place, qui a été réalisé par l'Association des départements de France, l'ADF, qui a commandité un rapport, alors c'est au président du département de Saône-et-Loire, mais bon, peu importe. Donc le rapport est en ligne, je vous invite à le consulter, parce qu'il fait aussi état d'innovation dans les bibliothèques, et notamment les bibliothèques départementales, et qui dit l'innovation dans les politiques départementales, on peut élargir à politique publique, c'est départemental, consiste à concevoir et mettre en œuvre, dans une approche de coopération ou co-construction, des réponses, services, actions ou dispositifs inédits pour améliorer ou transformer l'existant au bénéfice des habitants et de leur territoire. Donc cette question de l'innovation publique, elle va partir avant tout des besoins du terrain, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une innovation économique qui part de la recherche et du développement de nouveaux produits, la démarche est inversée, c'est-à-dire que là on part des besoins des usagers, des besoins du terrain, des besoins du territoire, et on va construire avec eux, avec les habitants, des réponses adaptées à leurs besoins. Voilà, donc c'est en gros, pour faire vite, ce que signifie l'innovation sociale, l'innovation des et l'innovation dans les services publics. De fait, ça a bien sûr une incidence sur les modes de gouvernance qui vont être mis en place dans les administrations pour piloter l'innovation. Alors, une des difficultés que j'ai eues, c'est qu'il était difficile d'aborder cette question du pilotage de l'innovation sans s'appuyer sur des exemples concrets de management et des mises en œuvre effectives dans les bibliothèques. Et alors là, double écueil, comment trouver des bibliothèques qui ont mis en place des managements innovants, donc un pilotage de l'innovation. Et puis le deuxième, et je m'en suis rendu compte un peu vite, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas toujours évident d'arriver à faire communiquer les bibliothèques sur leur mode de management. Parce qu'on touche quand même de façon très intime à la façon dont les établissements fonctionnent, donc avec des choses qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas publicisées, mais qui sont vraiment liées au fonctionnement interne. Et de fait, il y a certaines bibliothèques donc, que j'ai contactées parce que je savais qu'elles avaient conduit des expériences en matière de pilotage d'innovation qui ne m'ont pas répondu. C'est-à-dire que j'avais eu un premier contact, et puis finalement, au moment où ça s'est précisé, alors vraiment un vrai retrait par rapport à ces questions-là. Ce qui est entendable, parce que de fait, les entretiens que j'ai pu conduire avec certaines bibliothèques entraînent relativement loin, parce que pour moi, l'objectif, c'était quand même de savoir comment elles travaillaient, comment c'était géré par la tutelle, comment c'était reçu par les bibliothécaires, bien sûr. Donc, comment est-ce que le processus d'innovation était arrivé à se mettre en place Et de fait, ce sont souvent des processus qui sont douloureux dans certains établissements. C'est vrai que comme ça demande vraiment une remise en cause et une déconstruction des modes de management, de pilotage et de travail, quelquefois, ça coince, bien sûr. Donc j'avais le choix entre soit faire une enquête formalisée. Alors là, je vous renvoie à mon mémoire, mais hop, je j'en ai pris un extrait ici, soit faire une enquête formalisée comme celle qui a été conduite, alors une des rares enquêtes francophones sur l'innovation en bibliothèque, et celle qui a été conduite par un groupe d'étudiants suisses de la Haute École de Gestion de Genève. Donc ça s'appelle Enquête auprès de 8 bibliothèques de lecture publique. Donc eux, ils ont systématisé une enquête très formalisée. Ils ont choisi 8 bibliothèques qu'ils estimaient être innovantes. Alors moi, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à leur démarche, à partir des bibliothèques les plus fréquemment citées par la presse. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que les bibliothèques qui étaient le plus représentées dans les médias étaient celles qui étaient forcément le plus innovantes. Bon, je vous le pose, hein, voilà. Voilà. Oui, c'est hautement discutable, mais de fait, ils ont quand même réussi à mener un vrai travail derrière, donc ça a dû marcher peu au prou, mais c'est vrai que l'empirisme de leur démarche m'a semblé un peu étrange. Je ne me sentais pas forcément à l'aise voilà, dans l'idée de la reproduire. Cela dit, ils ont quand même réussi à identifier des choses qu'on peut recouper par ailleurs, sur d'autres études qui ont été menées sur l'innovation. J'y reviendrai un petit peu plus loin, je le laisse de côté. Et puis donc l'autre méthode que moi j'ai choisie, c'était de sélectionner des bibliothèques que j'ai pu identifier, alors bien sûr par la littérature professionnelle, par un stage, donc j'ai suivi un stage de formation à l'innovation en bibliothèque qui m'a permis de retrouver des bibliothèques, les bibliothèques dont on parlait dans le milieu professionnel et qui avaient conduit des expériences qui n'étaient pas forcément formalisées, donc par réseau de cette façon je suis arrivée à en retrouver certaines, et de fait ça m'a permis d'adopter une approche beaucoup plus qualitative et donc de conduire des entretiens ouverts avec ces bibliothèques. Ça m'a permis de caractériser plusieurs approches de l'innovation, donc plusieurs modes de gouvernance de l'innovation. C'est pas exhaustif, hein, moi c'est ce que j'ai découvert. J'en ai sélectionné 3 qui sont très différents. Le premier, c'est le service dédié dans la bibliothèque, donc un service innovation dans une bibliothèque. J'en ai pas trouvé beaucoup. Donc celle que j'avais identifiée, c'est la bibliothèque de Bordeaux, qui a créé un poste de chargé de mission innovation. À ma connaissance, c'est la seule en France. Hein. J'en ai pas trouvé d'autres. Donc qui travaille, qui est en poste. Donc son poste a été créé en 2011. Donc c'est Marie-Laure Abrard qui est bibliothécaire qui l'occupe. Qui se définit à la fois comme chef de projet et gestionnaire de transversalité. Il en existait un de chargé de mission innovation dans la BU d'Angers, sur laquelle je reviendrai un peu plus loin, qui a changé de modèle et qui s'oriente maintenant vers un autre mode de gouvernance de son innovation. Alors, ce choix-là présente des souplesses, des avantages en termes de souplesse d'organisation, mais aussi des limites qui sont induites par l'adaptabilité constante du poste à l'évolution de la structure. Concrètement, Marie-Laure Abrard, elle est arrivée en 2011. Quand je l'ai interviewée en 2014, elle en était à sa 3e fiche de poste. Voilà, donc c'était ça. Cela dit, c'était inclus dès le départ. Hein. C'était la mission qui voulait ça. Donc, un poste avec une adaptabilité tous les ans qui vraiment se réadapte aux missions et aux objectifs de l'établissement. À court terme, c'est une solution qui est viable, qui est non seulement viable, mais qui est souhaitable, parce que c'est un modèle qui permet de diffuser une culture de l'innovation de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui est dédié à ce poste et qui travaille exclusivement sur cette thématique-là, ça fait aussi partie de ses fonctions le fait d'inoculer une culture de l'innovation à l'ensemble de l'établissement. C'est très long, donc effectivement ça demande de l'énergie, ça demande des explications, ça demande une implication permanente, ça demande du rassurement permanent des équipes, hein. C'est ce que Madame Abrard m'expliquait, c'est-à-dire que effectivement ce sont des postes qui mettent en danger aussi la structure et les équipes, parce que au départ elles ne comprennent pas bien ce que c'est et à quoi ça sert, donc il faut vraiment une pédagogie de l'innovation au quotidien. Mais comme elle le disait, il faut envisager une évolution parce que le risque d'un poste unique qui repose sur une seule personne, bien sûr, c'est la marginalisation. Et de fait, ça peut être perçu aussi comme une intrusion dans la vie des services. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un comme ça qui se pose comme pilotage, comme pilote de l'innovation et qui va entraîner des services avec elle pour collaborer, ça peut coincer d'un point de vue hiérarchique, hein, aussi, bien sûr. Un autre modèle que j'ai découvert, c'est la démarche d'innovation continue telle qu'elle est conçue par la Bibliothèque universitaire d'Angers. Donc Angers, c'est une des rares BU qui a affiché un vrai dispositif d'innovation. Eux, ils sont passés par toutes les phases. Hein. Ils ont commencé par un poste de bibliothécaire qui était en charge de l'innovation, alors qu'il y avait la charge de la formation et qui avait aussi une fonction innovation. La spécialisation du poste a disparu. Mais de fait, elle repose sur l'ensemble des personnels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils encouragent certains agents à prendre en charge des fonctions d'encadrement intermédiaire auxquelles sont couplées ces fonctions d'innovation, avec une attention très particulière qui est apportée à la gestion RH. Ils ont supprimé la totalité de leur contrat et de leur rompu de temps partiel, donc tout ce qui était vacataire, pour n'avoir que des titulaires et se concentrer uniquement sur des titulaires, ce qui leur permet d'avoir des profils qui sont très calibrés par rapport aux évolutions de l'établissement et de les faire évoluer. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place aussi une vraie culture de l'évolution des postes, de l'avancement, de la promotion, donc qui va se passer, qui est vraiment calqué sur l'évolution de l'établissement. Et ils ont aussi mis en place des sessions internes de formation sur des thématiques novatrices. Donc avec des cycles de formation dans lesquels sont inscrits la totalité des équipes. Donc il y avait un premier cycle, par exemple, en septembre, octobre, novembre de l'année dernière, qui était consacré aux mises à jour des pratiques d'accueil, tous les mardis et tous les vendredis. Voilà, donc formation courte, 1h30, etc., qui vont concerner l'intégralité de la bibliothèque. Et les projets sont co-construits avec l'ensemble des équipes, c'est-à-dire qu'il y a toutes les équipes qui vont participer à la construction des projets de la bibliothèque. Les équipes d'un côté, les étudiants de l'autre. Ils associent également les étudiants à leur démarche, notamment de promotion de la bibliothèque universitaire. Ils ont fait participer, par exemple, des étudiants à des vidéos de promotion de la BU. Et le dernier exemple que j'ai pris, c'est celui du service de lecture publique de l'Isère, donc bibliothèque départementale de Pré, alors qui, elle, s'est vue proposer une expérimentation par sa tutelle, donc par le département, qui se posait des questions avec l'avènement du numérique sur la viabilité de la bibliothèque. Donc là, c'était quand même très particulier. Concrètement, le département s'est dit, avec le numérique, il n'y a plus besoin des bibliothèques. Je vous le livre un peu, c'était ça l'idée quand même. C'était bien ce qu'il y avait derrière. Donc on va conduire une mission en partenariat avec des étudiants d'un master innovation à Grenoble. Donc là, ils ont construit un partenariat avec l'université de Grenoble sur cet avenir des bibliothèques, avec dans l'idée effectivement que le lieu bibliothèque n'aurait plus besoin d'exister. Les résultats qui sont sortis de cette collaboration et ce que les étudiants ont mis à jour, c'est que bien sûr la bibliothèque elle servait quand même toujours à quelque chose, bon, on pouvait un peu s'en douter, mais c'est quand même ce qui est ressorti de façon assez visible. Et surtout ils ont proposé de mettre en place de construire un laboratoire de l'innovation en lecture publique pour les bibliothèques de l'Isère, qui est la mission sur laquelle je travaille en ce moment. C'est-à-dire que je suis en train de faire mon stage professionnel sur une étude de faisabilité de ce laboratoire de l'innovation en lecture publique pour le département de l'Isère. Donc, de fait, ça a quand même donné... Donc, ce partenariat a quand même abouti à ça. Alors, avec l'idée derrière, c'est probablement ce vers quoi on est en train de s'avancer, avec une refonte complète des missions de la bibliothèque départementale, ce vers quoi s'orientent la plupart des bibliothèques départementales, mais vraiment une mission d'ingénierie, d'accompagnement à projet et d'une plateforme de l'innovation qui serait à même d'accueillir l'ensemble des demandes des bibliothèques du département de l'Isère et du réseau de la BDP. Je vais continuer, puis presque finir d'ailleurs, avec la question des outils de management. Donc là, on a vu quels étaient les modèles de gouvernance qu'on pouvait mettre en œuvre par rapport à la gestion de l'innovation. Concrètement, comment on fait ? Quels sont les préambules et comment est-ce qu'on peut travailler sur cette question de l'innovation ? c'est pas propre aux bibliothèques, hein, ce que je vais dire là, mais c'est, on peut retrouver ça dans n'importe quelle organisation. Il faut que l'organisation de tutelle soit capable d'endosser des investissements à long terme. L'innovation, ça se fait sur la durée. On ne fait pas juste un coup d'innovation en se disant « je fais un coup ». C'est en ça que la question du management, elle est très différente de celle du service innovant. Le service innovant, on va se dire « voilà, je vais produire un service qui est innovant dans les bibliothèques. Il est pérenne, il n'est pas pérenne, mais c'est juste un coup. C'est quelque chose de relativement isolé. C'est un événement dans la bibliothèque. Voilà. » Le management de l'innovation, il est sur du long terme. C'est-à-dire que si on décide d'avoir une activité innovante et de travailler différemment, il faut qu'il y ait un véritable investissement et un véritable support de la tutelle pour pouvoir le faire sur du long terme. On ne va pas décider un jour d'innover pour arrêter 6 mois après ou 1 an après, parce que ça demande une reconfiguration de la structure. On va voir comment. Il faut aussi que la structure soit capable d'accepter le changement en continu. Et la prise de risque, on revient à ce que je disais tout à l'heure à propos du poste de chargé de mission innovation à Bordeaux, c'est que les fiches de poste, elles évoluent nécessairement avec l'évolution des projets et avec l'évolution de la structure. Et plus que les fiches de poste, on va le voir un peu plus loin, ce qui évolue aussi, c'est l'organigramme. C'est-à-dire qu'on repense aussi complètement la façon de fonctionner de l'organisation. Les bibliothèques qui avaient été interrogées par nos étudiants en Suisse, en gros, disaient la même chose. C'est-à-dire, quand on leur demandait quels étaient les conseils qu'elles donneraient aux autres bibliothèques pour innover, alors il y a la question, bien sûr, de l'imitation, c'est-à-dire qu'on va aller voir ailleurs ce qui marche et on va le reproduire. Mais il y a aussi, alors les bulles sont proportionnelles à l'importance du conseil. Donc, de façon centrale, ce qui ressort, c'est vraiment l'attitude qui est avancée. Donc, la curiosité, le courage, l'ouverture d'esprit, ne pas avoir peur de l'échec. Alors, cette question du droit à l'échec, elle est prégnante et elle est systématique dans tous les dispositifs d'innovation que j'ai vus, que ce soit le ministère de la Défense, que ce soit le SDIS de Saône-et-Loire, que ce soit dans toutes les institutions qui mènent des projets, l'échec est reconnu comme faisant partie du process innovant. On échoue, c'est pas grave, ça en fait partie. Ce qui est récompensé, c'est la tentative d'avoir essayé. Voilà. Si on ne réussit pas, on ne réussit pas, on fait autre chose. Voilà. C'est aussi ce que fait Angers, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Quand un projet ne marche pas, ils l'arrêtent. Voilà, simplement, c'est-à-dire qu'ils ne persistent pas. Quand un projet est arrivé au bout, ils passent à autre chose. Si effectivement il ne réussit pas en termes de satisfaction d'usager, ou si vraiment l'usage a évolué de façon à ce que le service n'est plus intéressant, sans remords, ils arrêtent le service et ils partent sur un autre projet. Alors, bien sûr, l'écoute des usagers, on va en reparler, c'est la question de la co-construction. Et puis, imiter, mais imiter dans les autres domaines. Donc, sortir du monde des bibliothèques et aller voir ailleurs ce qui se fait dans les autres, dans les autres administrations publiques, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs, mais aussi dans le privé, dans le milieu associatif, où il y a des choses intéressantes. Alors, il y a 3 outils, ou méthodes de travail qui m'ont semblé intéressantes et qui reviennent vraiment régulièrement dans les processus rencontrés. Le premier, c'est la déconstruction des méthodes traditionnelles de management qui vont évoluer vers plus de souplesse, plus de transversalité et qui vont nécessairement remettre en forme à un moment donné l'organigramme, donc le mode de gouvernance qui va se traduire par un nouvel organigramme. La réorganisation, alors c'est le travail que vous voyez, donc ce que vous voyez là, c'est le nouvel organigramme de la BDP des Yvelines, la BDY, qui n'est pas dans mon mémoire parce que le travail a abouti après que mon mémoire, donc il date de janvier, et moi j'avais rendu mon mémoire en décembre, mais j'avais à l'époque, j'avais travaillé donc j'avais fait un entretien avec Marie-Christine Jacquinet qui dirige la BDP des Yvelines, qui a donc intégralement repensé son organisation. Donc la gouvernance est pensée sur un mode relationnel. Elle s'appuie sur des chargés de mission experts avec une désectorisation très forte de la culture, c'est-à-dire qu'on n'a plus une direction culture, on a une mission lecture et culture qui se retrouve dans un pôle aménagement du territoire. Et concrètement, toute l'action de la BDP, elle va être menée par des projets et par la demande de projets. Donc on a en bas, hein, on le voit ici. On a les projets ici qui sont portés par des communes ou groupements de communes ou d'autres acteurs. Et on a ensuite toute une série d'acteurs, enfin, d'unités fonctionnelles du département qui va répondre à ces projets en fonction de son domaine de compétences et d'expertise. Avec une décentralisation des personnels, du coup, sur les territoires et une sectorisation des personnels par, par territoire. Peu ou prou, c'est ce vers quoi sont en train d'aller la, la majorité des BDP que moi j'ai pu rencontrer. Hein. C'est-à-dire que ce schéma-là, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de retrouver, au moins dans les réflexions, dans la quasi-totalité des bibliothèques départementales. Alors, avec des projets qui sont plus ou moins avancés en fonction des BDP, mais des enfin, on sent qu'il y a vraiment une tendance forte par là. Alors, cette déconstruction va s'accompagner de deux corollaires, le droit à l'erreur et du coup le pilotage en mode projet, hein, puisqu'on voit bien que l'intégralité de l'activité du service, elle est tirée par les projets qui sont proposés par le terrain, qui émanent du terrain. Le deuxième outil, c'est celui qui est basé, j'en ai un peu parlé, sur l'innovation participative et la co-construction. Donc travailler en élaboration de projets, alors bien sûr avec les équipes, mais aussi et surtout avec les publics qui vont se retrouver au centre de l'innovation. Alors ce schéma est extrait du guide de l'innovation centrée du usager qui a été conçu par le laboratoire de l'innovation de la région PACA en partenariat avec la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération. L'idée c'est de partir des besoins réels des usagers tels qu'ils peuvent être recensés à travers des focus group. Alors, c'est sur cette méthode qu'a travaillé, entre autres, la bibliothèque de Vanta en Finlande. Donc, bibliothèque de Vanta, qui était une vieille bibliothèque des années 70, qui connaissait une vraie période de déshérence, hein, perte de fréquentation. Des bibliothèques qu'on peut voir aussi sur notre territoire, hein, des bibliothèques un peu anciennes qui n'ont pas été repensées. Et qui donc ont travaillé avec l'aide d'une architecte d'intérieur qui a constitué des groupes d'usagers pour remixer la bibliothèque. Alors, le terme de remixer n'est pas innocent, hein. C'est bien sûr inspiré aussi des méthodes de muséomix ou de l'expérimentation de biblioremix à Rennes, par exemple. Je fais vite, l'expérience est plus détaillée dans mon mémoire. En gros, ça a permis à la bibliothèque de Vanta de quasiment doubler sa fréquentation. Hein. Voilà, donc ça a quand même été un vrai succès. Et de fait, ils continuent de travailler régulièrement avec des groupes d'usagers sur leurs projets. Donc cette co-construction ou innovation ouverte ou innovation participative, ça suppose qu'on peut utiliser aussi bien les idées extérieures que les idées internes. Et ça suppose bien sûr d'accepter de collaborer avec des amateurs, entre guillemets. C'est-à-dire que concrètement, il faut accepter de travailler avec des partenaires inhabituels et de pouvoir ouvrir ses portes et son fonctionnement à ses usagers. C'est pas gagné, parce qu'il faut aussi pouvoir accepter que l'usager ait un droit de regard, non seulement sur la finalité, mais aussi sur la façon dont on met en œuvre et sur la façon dont on conçoit le service. C'est pas évident, c'est-à-dire qu'il y a un vrai chemin à faire hein, par rapport à ces démarches-là, et une vraie démarche, pour le coup, de déconstruction de sa façon de travailler. Aujourd'hui, enfin, une des bibliothèques qui avance le plus en matière de co-construction et aussi de design de service, hein, c'est la BDP du Bas-Rhin. Donc la BDP du Bas-Rhin a conduit une première expérimentation en collaboration avec l'école de design de service, hein, je vais y revenir, de Strasbourg, en plongeant en immersion les étudiants de l'école de design dans des bibliothèques hein, de son réseau pour travailler en collaboration avec les habitants du territoire. Et donc la dernière méthode de travail, le dernier outil que je vais aborder et qui à mon avis est extrêmement prometteur, dont on aurait vraiment intérêt à s'emparer, c'est la méthode du design de service. Alors tout le monde connaît ce magnifique schéma, on va y revenir. Donc le design de service, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode qui permet de préfigurer des usages et de raisonner en termes de réponse aux besoins et non en termes d'espaces architecturaux. Le design dont il est question ici, ce n'est pas celui qui est le plus communément admis. Ce n'est pas la modélisation esthétique de produits, mais c'est la conception, le dessin IEN, l'objectif au sens premier du terme, au sens anglais étymologique du terme. Et donc le design de service, c'est une méthode de l'innovation sociale qui consiste à appliquer les méthodes du design de produits, entre autres l'efficience et le meilleur usage, au service, c'est-à-dire qu'on transpose les méthodes du design de produits au design de service pour concevoir des services. Alors, l'exemple que j'ai cité, c'est un des plus connus. Je pense que vous avez dû voir passer ce schéma parce qu'il a été, beaucoup, beaucoup repris. Donc ça, c'est un plan des usages qui a été réalisé donc avec cette fameuse méthode de design de service pour la médiathèque de Lezoux en Auvergne, qui a été pilotée par la 27e région. Donc la 27e région, c'est une association qui est spécialiste de l'innovation sociale et du design de service, qui travaille en collaboration avec les administrations et qui est spécialisée dans l'innovation dans les politiques publiques. Elle vient juste d'ouvrir un laboratoire de l'innovation à Paris qui s'appelle Superpublic. Donc pour les Parisiens, si vous avez l'occasion d'aller le voir, je trouve que le terme est très bien choisi. Donc ce travail-là ne représente pas une architecture, mais ça représente les usages et les services. Alors par exemple, en bleu, on a les services numériques qui ne sont pas confinés dans un espace, mais qui sont pensés dans une logique dématérialisée, donc une logique de service. On a par exemple la dématérialisation de la bibliothèque numérique, voilà, qui est ici, par exemple, et les bibliobox, ici, qui sont des bornes de téléchargement qui sont disséminées en ville, mais qui donc ne sont pas dans la médiathèque. Alors, cette question du design de service est en train de prendre une ampleur assez importante. Il y a eu un article le mois dernier dans la Gazette des communes sur designer de service, un nouveau métier. On a un ouvrage qui vient de sortir, qui a été publié par le département de Loire-Atlantique et l'école du design de Nantes-Atlantique sur la mise en œuvre de design de service. Et puis on a aussi, donc ça c'est un scoop, en janvier, la fondation Bill et Melinda Gates a publié un ouvrage en Creative Commons qui s'appelle Design Thinking in Libraries, qui propose un guide pour appliquer les méthodes du design au management des bibliothèques. Alors le scoop, c'est que le guide est pour l'instant en anglais, mais il va faire l'objet d'une traduction en français dans le cadre d'un projet bénévole qui est piloté par Nicolas Bedon, donc qui est conservateur ici, et auquel je collabore. Donc voilà, on vient de se décider, donc on va traduire cet ouvrage-là pour le mettre à disposition des bibliothécaires français. Je vais conclure. Je suis en train de poursuivre ce travail avec la BDP de l'Isère dans le cadre de mon stage. Donc il y a ces nouveaux travaux donc, qui sont apparus. Au cours de mon travail, il y a deux pistes qui me semblent être importantes à creuser en matière d'études et de prospectives. La première, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus eu d'enquête sur les modes de management des bibliothèques, que ce soit bibliothèque municipale ou bibliothèque universitaire, depuis 2003. À mon avis, il y a quand même une vraie urgence à reconduire une étude un peu de grande ampleur sur ces modes de management qui ont nécessairement évolué. Les deux études, alors on les retrouve dans mon mémoire, mais on les retrouve aussi surtout dans la bibliothèque numérique de l'ENSIM. Donc elles sont en ligne. Et depuis, plus rien. C'est-à-dire qu'on a eu, en termes d'enquête de terrain sur les modes de management, on n'a rien eu d'autre. Et puis surtout, alors moi ce que je regrette, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à creuser, je pense qu'il y aurait vraiment la place à un vrai labo de l'innovation en lecture publique, mais cette fois au niveau national, tel que la BPI avait commencé à le concevoir en 2013, puis le projet s'était arrêté, ce que je déplore fortement parce que c'était vraiment un très très beau projet qui avait été conceptualisé au départ par Caroline Brousse. On trouve encore ses travaux en ligne. Je pense que, alors bien sûr, les bibliothèques peuvent travailler chacune avec leur tutelle pour mettre en place des dispositifs d'innovation. Certaines sont mieux loties que d'autres parce qu'il y a un certain nombre, notamment, un certain nombre de collectivités, surtout des départements, mais quelques communes, je pense à Saint-Étienne ou quelques régions, Champagne-Ardenne, qui se sont équipées de labos de l'innovation. Donc des laboratoires qui travaillent avec ces méthodes-là, design de service, innovation sociale, innovation participative, et qui donc peuvent mettre ces outils-là à disposition de leur bibliothèque. Il manquerait, à mon avis, une réflexion plus transversale qui pourrait concerner l'ensemble des bibliothèques de lecture publique, que ce soit les bibliothèques territoriales ou les bibliothèques universitaires. Voilà, je vous remercie de votre Attention, j'en ai terminé. Si vous avez eu une ou deux questions, c'est ça Thierry, deux questions.
Deux questions, dit Christelle.
Enfin, j'ai un email, on peut m'écrire, on peut me téléphoner aussi.
Ça.
La nuit, le week-end, tout le temps.
Merci Christelle.
Cécile.
Oui, je voulais juste savoir, tu n'as pas eu le temps de parler de la temporalité, de la mise en œuvre de l'innovation, mais est-ce que donc les méthodes agiles, le fait d'essayer facilement, est-ce que la gestion de projet telle qu'elle est conçue actuellement n'est pas un frein avec toute la lourdeur et les mois de réflexion
En fait, la gestion d'un projet innovant, c'est pas la même. Alors, j'en parle dans mon mémoire, mais effectivement là je l'ai pas évoqué, n'est pas la même que la gestion d'un projet tout court. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement des ruptures de circuit. Il y a une mise en œuvre de projet que moi je trouve extrêmement intéressante, qui est celle qui est mise en place par le département de l'Isère, où ils travaillent avec des contrats avec des contractualisations de projet. C'est-à-dire qu'il y a une équipe projet qui est formée avec un chef de projet et des agents qui sont ensuite pris dans les services, qui vont collaborer au projet, et le tout est contractualisé avec les chefs de service, ce qui permet de se dégager de l'obligation hiérarchique, entre autres, et de pouvoir traverser. Alors, c'est des contrats, moi je les avais, ils ne sont pas forcément diffusables, mais je pense que si on peut leur demander, parce que ce sont des outils internes, j'en avais récupéré. Donc il y a vraiment une formalisation, une contractualisation du projet avec les agents, ce qui permet du coup de s'affranchir de la charge hiérarchique, de dégager du temps de travail qui est contractualisé et d'aller beaucoup plus vite, effectivement d'avoir des projets qui sont beaucoup plus agile, on va dire, et beaucoup plus rapide. Mais effectivement, la méthode de projet telle qu'on la conçoit, si elle n'est pas sortie de la hiérarchie, elle alourdit le système, bien sûr. Oui. Ça va barber.
Juste en quelques phrases, comment vous qualifieriez la différence entre piloter le changement et piloter l'innovation ?
Alors, le changement va nécessairement, il y a peu de différence, parce que l'innovation va nécessairement induire du changement, et à un moment donné, on va se retrouver avec des problématiques de pilotage de changement. Il faut mener les deux de front. Alors, c'est pas exactement la même chose, parce que l'innovation a pour objet d'adapter la structure aux besoins. Donc, elle poursuit sa logique propre. Après, le changement, il va intervenir dans le management et dans la gouvernance. Mais les deux sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que ce sont des réflexions qu'on doit mener de façon commune. Voilà, elles sont distinctes. C'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont des réflexions qui sont menées de façon commune. Si ça répond à votre question.
Impeccable.
Impeccable.
Bon, voilà. Merci beaucoup, ça me fait penser au colloque que certains d'entre vous, enfin, qui sont des vieux crocodiles comme moi, avaient pu connaître, les colloques de la FFCB, où on avait tellement d'intervenants qu'on ne pouvait pas respirer entre deux, et il n'y avait jamais de pause. Et
c'est
voilà.
Magique, hein, 17h01, je crois que je n'ai jamais vu ça, moi. C'est magique. Hein.
J'ai eu très peur. Bravo. Merci Christelle, en tout cas, et merci de votre attention et de votre participation.